بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Chafa en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous accepte ce soir pour être présent, pour essayer d'écouter la parole d'Allah Azza wa Jal avec pour objectif de comprendre qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit, quel est son message à travers le Coran. Et à partir du moment où le croyant aura compris le message d'Allah Azza wa Jal, il pourra rester sur le droit chemin. Parce qu'on a une époque où rester sur le droit chemin est devenu extrêmement difficile. Vu le contexte, vu ce qui se passe, vu ce qui se dit, vu le degré de péché, de fitna, tout ce qui appelle vers le mal, vu le contexte que le prophète alayhi salat wa salam avait annoncé concernant la fin des temps, où rester ferme dans sa religion sera aussi difficile que de tenir dans sa main une braise ardente, ben, sans le moindre doute, nous vivons cette époque où rester ferme dans la religion est devenu très difficile. Nous vivons cette époque où le prophète alayhi salat wa salam avait dit que cette religion, quand elle a commencé, elle était étrange. Et elle redeviendra étrange. Bada'a ghariba. Et la bonne nouvelle pour ces personnes étranges, c'est-à-dire les personnes qui, malgré tout ce qui se dit, malgré tout ce qu'on entend, malgré les critiques, malgré les doigts pointés, malgré les discours de haine, quand on ne parle pas de critique, on parle directement de haine, malgré ça, on reste fier d'être musulman et on essaie de rester ferme dans notre pratique, ben nous vivons cette époque. Mais pour rester ferme dans la pratique, pour pouvoir tenir cette religion comme une braise ardente, il faut comprendre le message d'Allah. Parce que si nous comptons avancer dans la religion uniquement par rapport à ce que nos parents nous ont légué comme héritage culturel, comme transmission de savoir, on peut craindre que cette transmission, à un moment donné, s'effrite. Ou que cette transmission ne soit pas complète. Parce que personne ne peut délivrer un message complet. Le message le plus complet, c'est le message qui provient directement du Coran. Et donc, si on arrive à, en plus de ce que nos parents nous ont enseigné comme éducation islamique, si avec ça on peut se connecter à la parole d'Allah, et si chaque jour, allez, même si on ne dit pas chaque jour, mais une fois par semaine, comme c'est le cas avec les programmes de tafsir, si une fois par semaine on peut comprendre un verset sur les plus de 6000 en 6 et 7000 versets du Coran, si chaque semaine on peut comprendre et intégrer un verset et le mettre en application de notre vie, ben on va faire des progrès inchallah. Il sera plus facile pour nous de rester sur le droit chemin. On avait démarré la semaine dernière la sourate Al-Qalam. Et subhanallah, en commençant la sourate Al-Qalam, on s'est dit qu'on est dans la continuité du 29e juz, après avoir fait Tabarak al-Ladhi, on continue. Et quelle fut notre surprise de découvrir et de voir ce message qui apaise le cœur, ce message qui tombe à point quand le prophète alayhi salatu wassalam subit les insultes des gens à Mecca. Parce que la sourate Al-Qalam a été révélée à Mecca, période de grande difficulté, période de stress, période de pression psychologique, période d'harcèlement moral, de violence physique, de torture, d'appel au meurtre, et de meurtre même parfois, pour certains sahabas, certains compagnons. Et dans ce contexte, le prophète alayhi salatu wassalam, qui quelques jours avant ou quelques mois avant était surnommé Al-Amin, l'homme de confiance, l'homme honnête, le meilleur des jeunes de Makkatul Mukarrama. Et du jour au lendemain, ces personnes le traitent de Majnoun. Cela affecte le prophète alayhi salatu wassalam, comme cela nous affecterait si notre peuple, si les membres de notre famille, imaginez que les membres de votre famille vous rejetez. Imaginez que vos voisins, votre, on va dire, le Qabila, la tribu, il n'y a plus trop de tribus, mais l'étendue, toute la famille, les gens de les mêmes origines, tout le monde se met d'accord pour dire que ça c'est un égaré, c'est quelqu'un de fou, c'est quelqu'un qui n'est pas sain d'esprit. Comment est-ce que ça nous affecterait? On sait qu'ils le disent par méchanceté. C'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui est lourd. Et d'une manière générale, ce n'est pas que le prophète alayhi salat wa salam qui subit ces difficultés à Makkah, c'est tous les sahaba, même les nobles, même les riches, n'en parlons pas des pauvres, n'en parlons pas des descendants d'esclaves ou des personnes qui sont démunies. Même Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu qui fait partie des nobles à Makkah, Omar ibn al-Khattab avec ce qu'il représente à Makkah, avec sa force, avec le nasab, avec ses origines. Malgré ça, Omar ibn al-Khattab subit ses persécutions. Hamza, Abu Bakr as-Siddiq et tous les sahaba ridwanullahi alayhi majma'in. Et donc, ils se font traiter également de menteurs, de personnes qui sont égarées, qui égarent les gens, qui séparent les familles, les tribus, qui sèment la discorde entre les pères et leurs fils. Mais lorsque ce verset révélé sur le prophète alayhi salatu wassalam, où Allah azza wa jal rappelle, tout d'abord, nun wal qalami wa ma yasturun, ça on revient dans un instant, mais qu'Allah azza wa jal rappelle le prophète alayhi salatu wassalam, ô mon prophète, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, tu, c'est-à-dire Muhammad, n'es pas par la grâce de ton Seigneur un possédé. Contrairement à ce qu'ils peuvent dire, tu n'es pas possédé, tu n'es pas dérangé, tu n'es pas perturbé psychologiquement. Ce qu'ils te disent quand ils t'accusent d'être Majnoun ou autre, sache que ce sont là des paroles des hommes. Et que le Seigneur des mondes au-dessus des sept cieux a révélé que tu es la meilleure des personnes qui existent sur cette terre, parce que juste après avoir réconforté le prophète, le rassurer que tu n'es pas fou, tu n'es pas possédé comme ils le disent. Allah Rabbul Izza dit également wa inna laka la ajran ghayra mamnun, en ce sens que il y aura pour toi certes une récompense jamais interrompue. Voyez comment est-ce que ces versets là apaisent le prophète alayhi salat wa salam. Il n'y a pas meilleur encouragement que tout d'abord lorsqu'Allah Azza wa Jal écarte les méchancetés qui sont profané par les polythéistes de Mecca. Et qu'ensuite, Allah Azza wa Jal rappelle au prophète que la récompense que tu as, la récompense qui t'est promise pour ta mission, pour tes bonnes œuvres, pour ta patience, pour ton endurance et pour tout ce que tu es en train de subir de la part de ces personnes, c'est une récompense qui est réelle et mamnoun, qui n'a pas de limite, parce qu'elle vient de qui ? Elle vient de moi, elle vient du Seigneur des mondes, de celui qui a révélé ce verset. Comment est-ce que cela encourage le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Et qu'Allah azza wa jal dit ensuite de le verset numéro 4, « Wa innaka la'ala khuluqin azim » et tu es certes d'une moralité éminente, azim, c'est-à-dire tu es le meilleur des hommes, la meilleure des créatures d'Allah. Donc s'il te traite de sorcier, de fou et ainsi de suite, sache que pour, même si toutes les tribus, Quraysh ou quelles que soient les tribus de Makkah, de la péninsule arabe, même si le monde entier est contre toi, et il te qualifie par ces termes qui te blessent, mais ton Seigneur au-dessus des sept cieux atteste que tu es le meilleur des hommes et que ton comportement, c'est le meilleur des comportements, c'est tu es d'une moralité éminente. Voilà donc les encouragements qui viennent de la part d'Allah Azza wa Jalla. Les savants disent que ceux qui suivent le hadith, la guidée du prophète alayhi salatu wa salam, le chemin tracé par Nabiullah alayhi salatu wa salam, ben nous aussi on peut être réconfortés, on trouve une part de réconfort à travers cette révélation. Parce que quand on vit une situation où les gens t'accusent, où les gens te pointent du doigt, où on t'accuse injustement de choses que tu n'as pas fait, et dans ces versets, il y a l'encouragement qui vient d'Allah pour son prophète qui est sur le droit chemin, qui reste sur le droit chemin, qui prône, qui prêche la mission d'Allah et qui reste ferme, patient, endurant et confiant en Allah. Sache que si tu suis le même chemin, mais ce n'est pas que être musulman, si tu es musulman, mais tu pratiques, tu propages, tu encourages les gens à venir vers la vérité et tu es patient, tu passes sur les méchancetés des gens, tu ne remets jamais en question la décision d'Allah, tu es confiant que tout vient d'Allah Azza wa Jal. Sachez qu'on peut avoir une part déjà, que on n'est pas possédé, on n'est pas fou, même si ces gens vont dire que Ghuraba, ce sont des étrangers, des personnes qui ont un mode de vie différent, qui ne savent pas, je ne veux même pas utiliser le mot s'intégrer, parce qu'on ne parle plus d'intégration maintenant. Si s'intégrer, c'est avoir une moralité sans limite concernant plein de choses où les valeurs même de la famille sont remises en question, où on n'a plus de respect pour son prochain, et ainsi de suite. Si c'est ça l'émancipation, si c'est ça, Allah Musta'an, on comprend que vous, certains discours, mais que nous soyons persuadés que nous sommes dans le vrai. Nous ne sommes pas égarés, nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas possédés, nous suivons l'ordre d'Allah, un chemin tracé par Allah. Et si on suit ce chemin, ben nous aussi, on peut avoir une part de cette bonne nouvelle que la récompense qu'Allah nous réserve, et ça on le retrouve dans d'autres versets, dans d'autres hadiths, dans des descriptions du paradis et des récompenses pour celui qui est patient, qui est endurant. On a cette conviction que quand on reste ferme, quand on est patient face à la méchanceté des gens, quand on est patient dans notre pratique de la religion et qu'on arrive à dépasser les critiques des gens par rapport à notre pratique, ben que la récompense qu'Allah va nous accorder, ce sera une magnifique récompense qui provient d'Allah. Il suffit de réaliser que la récompense qui sera la nôtre, Inch'Allah, le jour du Qiyama, c'est une récompense qui vient de notre Seigneur. Bas, ça doit être amplement suffisant. Si un roi, excusez-moi, la comparaison est sans intérêt. Si un roi, un prince vous invite et vous promet une récompense pour, pour un travail, pour une mission, peu importe, il vous promet une récompense, d'accord? On sait que un prince qui donne ou un roi qui donne quelque chose, le cadeau sera à la hauteur de celui qui le donne. D'accord? Quand vous recevez un cadeau d'un roi, ce n'est pas comme si vous recevez de votre voisin. C'est pas pareil. Vous savez que le roi, il va donner quelque chose de valeur qui correspond un peu à son makan, à sa statue, à son importance, à son pouvoir et également à sa richesse. Mais quand c'est notre Seigneur, c'est le Seigneur des mondes qui annonce, on pourrait dire à la couleur, que cette récompense, elle est ghayru mamnoun, une récompense jamais interrompue. Ça fait beaucoup de bien intérieurement. On sait que tout ce que nous subissons, ce n'est pas gratuit. Il y a quelque chose à gagner, mais il faut être patient, il faut être endurant, il faut continuer à avancer. Continuer à avancer en ayant le meilleur des comportements avec ceux qui te causent du tort. Ça, c'est la noblesse de caractère. Après, il y a d'autres versets, on ne va pas trop sortir du sujet. Si le verset, subhanallah, le sens du verset, « فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ » Que le sens, le tafsir approximatif, le ma'na de ce verset, c'est si quelqu'un il te fait du tort ou il essaie de te provoquer, essaie de répondre de la meilleure des façons, d'avoir le meilleur des comportements, de lui adresser des paroles douces, correctes, respectueuses, et tu verras que son cœur va changer. Celui qui avait de l'adversité, de la haine, pour toi, contre toi, il finira par être un allié, par son cœur finira par tomber, il développera de la muhabba pour toi. Ce sont là des enseignements de notre livre du Coran. Le prophète alayhi salat wa sallam, ça on le disait dans un autre programme, il n'a jamais détesté sa tribu. Il n'a jamais eu de haine ou de colère contre eux. On lisait récemment un article concernant la tuerie qui avait eu lieu à Rouen, Saint-Étienne, l'église, où mais ces personnes, eux, c'était des majnouns. Eux, ils étaient fous, vraiment. D'accord? Quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, et un des prêtres qui a survécu dit que, c'est un prêtre ou une sœur, ou les deux, disent qu'à aucun moment on n'a ressenti de haine contre ces gens. On pourrait dire que ça, c'est la bonté chrétienne. Mais cette bonté chrétienne qui est souvent mise en avant à travers les notions de Dieu est amour et ainsi de suite, nous avons, subhanallah, un exemple à travers le vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a jamais détesté les personnes qui lui faisaient du tort. La plus grande preuve, quelle est la plus grande preuve, Nabi l'avait dit la dernière fois, lors de la conquête de Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé. Il n'a même pas fait de prisonniers de ces gens-là. Il y avait parmi les Quraysh des personnes qui étaient à l'origine de ces problèmes. C'était les commanditaires de toutes les tortures, du mal qui était fait à lui personnellement et à tous ses sahaba au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam récupère Makkah. Et il a maintenant... Tout est dans ses mains. Il peut les emprisonner, il peut les exécuter, il peut les exiler, il peut faire ce qu'il veut. Et David Habou, fa antum al-talaqa, il les laisse le choix de partir. Montre que le prophète n'a jamais eu de haine. Et le prophète ne nous a jamais enseigné de détester des gens. Vous pouvez détester le péché qui est pratiqué par une personne. Vous pouvez, et ça on voit Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres des grands savants, lorsqu'ils expliquent le jidal avec les gens qui ont des croyances contraires à Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils disent que jamais on déteste un frère musulman ou une personne. Il y a l'action qui est accomplie, cette action-là on ne l'aime pas. Si vous savez que quelqu'un boit de l'alcool, ben, vous ne devez pas détester la personne. Cette action-là, elle est détestable. Mais cet homme reste une créature d'Allah, reste un frère. On ne doit pas l'exiler, non. On doit faire en sorte de le soigner, faire en sorte qu'il arrête ce péché. Vous voyez, si on vraiment revient vers les sources, vers la base de la pratique, ben, le sens de l'humanisme, vraiment, l'amour pour son prochain, on le vivrait. On le vivrait vraiment et nous ne serions pas en train de nous tirer dans les pattes quand quelqu'un il travaille un peu bien ou il est en train d'avancer, on essaie de le bloquer, ainsi de suite. Tout ça, ça prouve qu'il n'y a pas d'ikhlas, il n'y a pas de sincérité et qu'on recherche d'autres choses. C'est pour ça qu'on a, très souvent, on n'avance pas parce qu'on n'est pas prêt à avancer main dans la main. On veut chacun, il garde ses intérêts, ainsi de suite. Wallahu al-musta'an. Noun wal qalam yuma yastrou, on avait expliqué les avis des savants concernant la lettre Noun et tous les versets, les sourates qui commencent par ce genre de lettres. On avait rapidement expliqué wal qalami wa ma yasturun par la plume et ce qu'ils écrivent. Et al qalam ay jinsul qalam alladhi yuktabu bihi, Ibn Kathir dit qu'on parle de la plume, c'est le stylo, c'est d'une façon générale, on parle de l'écriture. Bon, ça c'est un avis. Après, il y aura d'autres avis qui vont un peu plus loin. Il dit que فَهُوَ قَسَمٌ مِنْهُ تَعَالَى وَتَنْبِيهٌ لِخَلْقِهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ تَعْلِيمِ الْكِتَابَةِ الَّتِي بِهَا تُنَالُ الْعُلُومِ. Allah rappelle le bienfait de l'écriture, qu'il a enseigné à l'homme l'écriture et que l'homme puisse faire le tadwin, il puisse écrire ce qui lui est profitable, et par l'écriture, l'homme peut consigner la connaissance religieuse, l'apprendre et le transmettre. Et en commentaire, certains savants, ils rappellent, vous voyez, là on cite la plume, le fait d'écrire, même s'il y a d'autres avis hein, concernant l'écriture, ça parle de choses, on va voir, mais certains savants disent, vous voyez, on parle de l'écriture, et vous voyez, dans Iqra, on parle du fait de lire, c'est-à-dire que l'islam a toujours donné de l'importance à l'éducation, à l'enseignement, au fait que la personne ne reste pas dans l'ignorance et qu'il n'écoute pas, il ne se contente pas d'écouter ce qu'on lui raconte, mais qu'il apprend de lui-même, qu'il ait la possibilité d'écrire, de lire et d'avancer par lui-même. Et parmi les... Vous savez, quand il y avait les prisonniers après une guerre, toutes les guerres, il y a des prisonniers, d'accord ? Après une guerre, il y avait des prisonniers, et les musulmans, ils avaient des prisonniers parmi les ennemis, ceux qui voulaient les tuer, d'accord ? Et la rançon, je crois que c'était les prisonniers de Badr, si je ne me trompe pas, la rançon demandée par le prophète Sam, c'était quoi ? Enseigner aux musulmans, aux enfants, à lire et à écrire. Si je ne me trompe pas, chaque prisonnier devait enseigner à 10 enfants. Si je ne me trompe pas, à 10 enfants musulmans, lire et écrire. Voilà donc, vous voulez racheter votre peine ? On n'a pas demandé une caution de... Enseigner, vous savez lire et écrire, enseigner à nos enfants la lecture et l'écriture. C'était là la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit, vous voyez, comment est-ce que le prophète insistait sur l'éducation à ta'lim. Et ça, c'est un point extrêmement important. Maintenant, on passe à un autre cap, à un autre niveau concernant l'interprétation de Al-Qalam et Wama Yasturun. Et selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, وما يسطرون يسون السدي رحمه الله يعني الملائكة وما تكتب من عمل العباد. Cela concerne, là on ne parle plus de l'écriture simple, ce que j'écris, ce que vous écrivez pour les bonnes choses bien sûr. Là on parle de ce que les anges écrivent. ما تكتب من عمل العباد. Et qu'est-ce que les anges écrivent? Les anges qui inscrivent, qui ont les plumes pour écrire, ben ils ont été créés pour inscrire les actions des êtres humains. Tout ce que l'homme accomplit, les anges écrivent. Qui c'est qui n'avait jamais entendu ça? Personne. C'est-à-dire, tout le monde le sait, oui ou non? Tout le monde, ça c'est les bases. Quand on va à madrasa, quand on est petit et tout, ben on apprend iman bil malaika, quand on apprend la foi sur les anges. Qu'est-ce qu'on apprend comme connaissance basique? Les anges ont été créés de lumière, ils sont différents de nous, ils sont invisibles, ils sont parfaits, ils ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal. Et ensuite, il y a différents anges. Il y a des anges qu'Allah a créés pour des missions célestes, la révélation, ou alors apporter la subsistance. Ça, ce sont les connaissances basiques que nous devons avoir, soit al-iman bil malaika. Et quand on apprend la fonction des anges, ça c'est incontournable, qu'il y a des anges qui sont avec chaque être humain et qui inscrivent les actions bonnes comme mauvaises. Tout le monde le sait. Il n'y a pas un musulman qui est ignorant sur ce point. Mais combien parmi nous réalisent la portée de cette connaissance? Ce qui nous importe, c'est une connaissance qui nous est profitable. Pas une connaissance juste par ornement, on pourrait dire qu'on a appris telle chose. Parce que les savants disent que si un croyant intègre, comprend et réalise, et il a la conviction sur le fait que chaque parole qu'il prononce, là la parole qu'on est en train de prononcer, ce sont des paroles de bien ou de mal. Inch'Allah de bien. Inch'Allah il y a la sincérité derrière cette parole. Allah est le seul juge. Mais ce sont des paroles qui Inch'Allah sont inscrites par les anges. Votre Julus, les anges inscrivent les actions, les paroles, mais également les actions. Le fait que vous soyez assis, le sacrifice, le fait d'être présent dans une assemblée plutôt que d'être ailleurs, plutôt que d'aller boire un méchec ou manger une glace ou aller regarder la télé ou aller parler avec des amis à l'extérieur, le fait de donner un peu de son temps et d'être présent dans la masjid, sachez, mes chers frères en islam, que les anges l'écrivent, que Oussama, que Nabil, que Abdurrahman, que Hudhaifa, Bilal, ils sont présents, ils ont donné de leur temps pour talabul ilm, et que ce majlis s'est réuni pour la connaissance. Et au-delà de ça, les hadiths qui parlent des anges qui viennent, qui rapportent à Allah Azza wa Jal, qui était là, et Allah sait mieux qui était là. Donc, même ce hadith-là, on le sait, on le connaît, oui ou non? On le connaît. Maintenant, si prenez tout ce que vous avez comme connaissance et dépassez le niveau des oreilles, mettez-le dans le cœur, ça change tout. Réalisez, les savants disent que celui qui réalise que chaque parole qu'il prononce et que chaque fait et geste est inscrit par les anges, ben, yakfihi. Normalement, ça doit être suffisant pour que la personne reste sur le droit chemin. Parce qu'il est conscient que tout est imprimé, tout est écrit et tout lui sera présenté quand? Le jour de Qiyam. Lorsque les livrets d'action seront remis. Tout le monde a déjà entendu parler des livrets d'action qui seront remis, oui ou non? Tout le monde le sait. Il n'y a pas un musulman qui n'a pas entendu au moins une fois l'histoire des suhuf, des kutub al-a'mal, des feuillets d'action qui seront distribués où l'homme va voir ses actions. Mais combien parmi nous ont déjà réalisé, intégré la portée de cette connaissance? Que le jour de Qiyama, les actions que je suis en train d'accomplir, bonnes ou les mauvaises aussi, qu'Allah nous protège, ben ces actions-là nous seront présentées. Si vraiment on se focalise sur ces bases, on est et on reste sur le, on ne peut, sur le droit chemin, on ne peut pas se détourner. Donc, un des avis, au-delà du fait de l'écriture générale, c'est al-mala'ika, ce que les anges écrivent, c'est-à-dire a'mal al-ibad. Troisième avis, troisième tafsir, bal, tout ça c'est cité par Ibn Kathir, al-murad, ha-huna bil-qalam, al-ladhi, là quand on parle du stylo de la plume, c'est le fameux qalam par lequel la vie et tous les événements ont été écrits bil-qadar, par la prédestination, le taqdir qu'Allah a décrété. Lorsque maqadir ul-khala'iq, lorsque le destin de la création a été mis par écrit, donc c'était par le stylo, par la plume, et selon donc ces savants, ces mufassirin, le qalam qui est cité en qasam, nun wal qalami, Allah jure par le qalam, ce serait le qalam par lequel le destin de l'humanité a été écrit. Dans un hadith, il est rapporté que ça m'a dit que j'ai entendu le prophète sallam dire inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, la première chose qu'Allah a créée c'est le stylo. Faqala lahu uktub, et Allah a ordonné au stylo d'écrire. Faqala ya rabbi ma aktubu, ou Allah qu'est-ce que j'écris? Et Allah azza wa jalla a demandé à cette plume, à ce stylo, on pourrait dire stylo, d'écrire le destin, ma huwa ka'in ila al-abadi, tout ce qui doit se produire jusqu'à la fin des temps. Et dans d'autres commentaires, d'autres citations, il est question de « ma huwa ka'in ila yawm al-qiyam » tout ce qui va se produire jusqu'au qiyam « min amalin » en termes d'action bonne ou fujur ou les péchés, les mauvaises actions, également décrit « al-rizq al-maqsoum » la subsistance qui doit être prédestinée aux gens « halal ou haram » licite ou illicite, ceux qui vont consommer de ce qui n'est pas bon, donc c'est leur faute, ça aussi c'est écrit par le qalam. Également, chaque personne qui va naître, comment la personne va vivre, wa khurujuhu minha ay min ad-dunya kayf, et comment la personne quitte ce monde, de quelle façon, dans quelles circonstances, tout ça, selon ses avis, sont écrits dans le livret, c'est-à-dire le destin de l'humanité. Et bien sûr, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, là ça nous permet de développer un autre point, c'est la foi sur le destin. La foi, وَالْإِمَانْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. Mais bien sûr, quand on se contente juste d'évoquer ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné au stylo ou à la plume, on pourrait dire d'écrire, ben... Cela ne veut pas dire pour autant que voilà, c'est écrit et nous on n'a pas le choix, non. Après bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails concernant la croyance ou le destin, mais le aqidah, l'aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'ah, qui est une croyance du juste milieu, c'est que tout est prédestiné parce qu'Allah Azza wa Jal a la connaissance du futur et de toutes les éventualités du futur. Allah Azza wa Jal connaît le passé, le présent, le futur et même le futur conditionnel qui ne se produira pas. Que l'homme, en finalité, il est parti là. Mais s'il était parti ailleurs, quel aurait été son destin? Ça aussi, ça fait partie du ilm d'Allah. Mais c'est un degré de ilm qu'on n'arrive pas à concevoir. Et d'autant plus que ce ilm qui est exceptionnel et sans limite pour un individu, Allah le connaît pour tout ce qu'il a créé. Et quand on dit tout ce qu'il a créé, c'est pas que les hommes, ça concerne également la subsistance de chacune de ces créatures, du plus grand mammifère au reptile à l'insecte qui fait 2 micromètres. Chacun a sa subsistance et tout est prédestiné par Allah. Donc quand on parle du ilm d'Allah, ça nous dépasse. Donc en aucun cas, on ne doit sentir ou penser qu'il y a une contradiction entre le fait que tout est prédestiné et le fait qu'Allah nous demande de faire des choses. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. L'homme dispose du libre arbitre. Allah nous demande d'accomplir, de faire attention, de nous éloigner, de rester ferme, de nous accrocher, et en finalité, le destin de chacun est déjà écrit. C'est qu'Allah, il sait à l'avance quel va être ton choix, mais là, il y a une coupure entre ta conception du ilm et le ilm d'Allah. C'est là que tu ne peux pas comprendre. Il est impossible pour un être humain de comprendre le destin à la façon de l'être humain. Parce que la capacité de l'homme s'arrête là où la connaissance d'Allah commence. Et les décisions du taqdir viennent d'Allah. Et il est tout à fait donc compréhensible. Maintenant, il est normal que l'homme, avec sa compréhension, ne peut pas pénétrer dans la science d'Allah. On n'arrive pas. Mais nous, ce qu'on a à notre niveau, ce qui nous suffit, c'est d'être conscient que tout est dans les mains d'Allah, que tout vient d'Allah, et on demande à Allah de nous accepter, on nous demande à Allah tawfiq, on demande à Allah de nous guider vers le droit chemin. C'est pour ça qu'on demande à chaque fois, ihdina as-sirata al-mustaqim, on demande à Allah de mourir dans le droit chemin, de nous éloigner des péchés, de nous protéger des asbab al-fitan. C'est pour ça qu'à chaque fois on dit a'oudhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Si on sait que dans notre destin, Allah nous a protégés contre le diable, pourquoi on continue à lire Abdelham Shaitan Rajim alors? Ou alors, si on savait que notre destin, le diable va avoir plusieurs fois raison de nous, il va nous amener vers tel péché, dis pourquoi je lis Abdelham Shaitan Rajim si c'est déjà écrit dans mon destin que ce soir ou demain, je vais peut-être faire tel péché? Dans ce cas, on s'arrête complètement, on ne fait plus rien, aucunement. On fait les efforts, on demande protection, on demande à guider, on demande à Allah de rester ferme, mais en finalité, on sait que tout est déjà écrit et Allah observe nos efforts.
à un tel point que même si tu as l'intention de faire un effort, mais tu n'as pas pu le faire, Allah t'accorde une récompense. Imaginez que Nabil, ce soir, il a l'intention ferme de faire Qiyamul Layl, Tahajjud, qu'Allah t'accepte. Jusqu'à quelle heure on peut faire en ce moment? C'est chaud, hein, 4:47. Et qu'il dit, Inch'Allah, il met son réveil 4:30. Qadar Allah, il n'arrive pas à se réveiller. Ou alors, quand ça sonne, il appuie dessus et puis il dit encore un petit instant. Et il n'a pas pu faire le tahajjud, la prière de la nuit. Est-ce que tout est perdu? À partir du moment où il a dit, demain, Inch'Allah, je fais tahajjud, il a réglé son réveil, la récompense du tahajjud lui a déjà été accordée. Ça, c'est la générosité d'Allah. Vous pensez qu'Allah va être injuste envers nous? Il va te prédestiner le mal et à lui prédestiner le bien. Donc tu peux te débattre comme tu veux. Si ton nom est inscrit là-bas, tu vas crever en enfer. Les choses ne se passent pas comme ça. Allah est Rahman Rahim. Et la qualité d'Allah que nous récitons le plus souvent dans une journée, c'est Rahman Rahim. Clément, miséricordieux. Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar Rahman Rahim. Si Allah nous demande de rappeler en permanence qu'il est le clément et le miséricordieux, c'est parce qu'il agit avec nous avec clémence et miséricorde. Donc jamais Allah ne va condamner quelqu'un. Allah observe comment tu agis. On avait commencé un hadith dans Riyad al-Salihin, de lequel notre prophète alayhi salatu wasalam décrit ce dunya qui est verdoyant et attirant. Il est beau, ce dunya, ce bas monde, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde sont attirants et l'homme aime. Et dit, il continue, dit qu'Allah va vous accorder ce dunya. Pour certaines personnes, Allah va accorder, va leur donner la possibilité de régner, ou de posséder, ou d'avoir un certain pouvoir, ou un potentiel. Dit Allah, il donne le dunya à certaines personnes, mais Allah, ustakhlifakum fi, fayanzura kayfa ta'amaloun. Et ensuite, Allah regarde qu'est-ce que vous faites de ça. Est-ce que Allah ne connaît pas déjà ce qu'on va faire? Bien sûr que oui. Mais le prophète dit qu'Allah te donne et il observe qu'est-ce que tu vas faire. C'est-à-dire qu'il y a une fracture entre le texte, l'annonce et la connaissance d'Allah. Il y a une subtilité qu'on ne peut pas toucher. Ça, c'est la connaissance d'Allah. Allah, il sait déjà ce que tu vas faire. Mais Allah te donne et il t'éprouve, il regarde comment est-ce que tu agis. Et ce que tu vas adopter comme comportement, les paroles que tu vas prononcer, ça vient de toi. Mais en finalité, Allah sait que tu allais dire ça. Bref, voilà un aperçu vraiment concis du taqdir. Donc, deux leçons. Une leçon, ça on a déjà dit pour celui qui sait que les anges inscrivent les actions. Quel doit être son état d'esprit? Et par rapport à ce tafsir, les savants disent, le fait de savoir que tout est consigné dans un livre. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde sans l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Même les choses les plus dramatiques, quand on voit ce qui se passe en ce moment à Alep, avec nos frères musulmans qui sont massacrés, un tel massacre qui se serait produit en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, on aurait les casques de toutes les couleurs, bleu, vert, tout le monde, l'ONU, les tanks, tout le monde y serait, parce que c'est, on parle d'épuration ethnique. On parle de crimes contre l'humanité. Mais malheureusement, on est à une époque où on choisit l'humanité. Si c'est l'humanité africaine, ils sont noirs, ils sont pauvres, ils n'ont rien. C'est une fois de temps, on va condamner. Mais si on touche d'autres populations, là, levée de bouclier, les philosophes, les journalistes, ainsi de suite. Ce qui se passe à Alep, c'est une catastrophe humaine. N'importe quelle personne qui a de son cœur des sentiments ne peut rester insensible. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est doua, les invocations, écrire des courriers, solliciter les personnes qui peuvent prendre des décisions, même si on peut se dire que qu'est-ce que ça représente, c'est une goutte d'eau, c'est le moindre effort qu'on peut faire. Quand quelqu'un, parmi les qualités du croyant, quand tu vois quelque chose de mal, soit tu essaies de changer, mais on ne peut pas changer la situation. Ça se passe au niveau politique, c'est pas à notre niveau, ça, d'accord? Ou alors, par la parole. Ben, on peut dire, si on peut le dire, d'accord, mais c'est pas, à mon humble avis, c'est pas en appelant la radio locale que ça va changer quoi que ce soit. Au moins que ton cœur saigne. Au moins, de ton cœur, il y ait de la tristesse parce qu'on ne peut pas être, on ne peut pas rester insensible à ça. Et puis là, vous allez dire que, mais ce sont des musulmans qui meurent sous ces obus largués par, on va pas dire qui ça, d'accord? Et que toute l'Europe est spectatrice de ce qui est en train de se passer, le temps est terminé, mais on se dit comment est-ce possible que des croyants meurent? Et comment est-ce qu'Allah peut laisser ses croyants mourir? Ben, nous avons qu'à analyser l'histoire des civilisations et l'histoire des croyants. C'est dans la sunna d'Allah Azza wa Jal que d'éprouver des personnes par leur vie, que des fois ils meurent par rapport à leur identité de croyant. Et le plus bel exemple, c'est l'histoire d'Ashab al-Ukhdud dans Wassama Idat al-Buruj, où je vous invite à lire et à relire ces quelques versets. C'est comme si qu'on voyait l'histoire se reproduire dans toutes les régions du monde. Quand on creusait des fossés et qu'on y jetait hommes, femmes, on le répète tout le temps cette histoire, vieillards, enfants, bébés, nouveau-nés, on jetait de ce fossé où ils avaient mis un feu ardent, on brûlait les gens vifs uniquement, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, uniquement parce que ils avaient iman en Allah, c'est pour ça qu'on les tuait. Bien sûr, quand il y a ce genre de choses qui se passent ailleurs, personne ne dit clairement que c'est un crime par rapport à leur appartenance religieuse. Mais il faut savoir que dans Ashab al-Ukhdud, si Allah le voulait, n'aurait-il pas empêché ce massacre? Sans le moindre doute, il n'y a même pas besoin de se poser la question. Et là aussi, il y a des choses qui nous échappent concernant le destin. Allah décide de quelque chose, même si nous ne voyons pas la logique ou la cohérence ou le bien fondé, on se dit que c'est la décision d'Allah et rien ne se produit sans la décision d'Allah. Après, si on voulait entrer dans les détails de iman bil qada et wal qadr, les savants parlent de irada kauniya et irada shar'iya, c'est qu'Allah a décrété qui se passe alors qu'Allah n'aime pas le déroulement, et puis ce qu'Allah veut, l'idéal qu'Allah demande aux hommes d'atteindre. Il y a une nuance également, c'est des masaïls très précis où les savants ont écrit mashallah des ouvrages très intéressants. À notre niveau, on doit comprendre que rien ne se passe en ordre d'un. Donc, le fait de savoir que tout ce qui se passe dans le monde est sous le contrôle de notre Seigneur, est déjà inscrit, et que même s'il nous arrive des choses ou qu'il arrive à nos frères des choses qui sont difficiles à accepter, tu te dis, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien ou on ne fait pas doua, non, tu te dis que Allah a décidé que ça se passe ainsi. On fait doua, on essaie de changer les choses, mais on se dit que c'est la décision d'Allah. Et c'est pas que les méchants ou les ennemis, ils ont le dessus, ils ont vaincu maintenant, ils ont rien vaincu. Autrement, quand ces personnes assassinées, Ali Yasser, toute la famille, est-ce que c'était des vainqueurs? C'est pas des vainqueurs. Dans cette situation où la famille de Ali Yasser, le papa, la maman et le fils qui venaient de se convertir à l'islam, ils étaient torturés devant l'islam jusqu'à mourir, à Makkah al-Mukarrama, où Soumaya, radiallahu anha, elle a été écartelée, et la première femme qui a donné sa vie par rapport à sa foi, ben, les personnes qui l'ont tuée, on aurait pu les considérer comme des tyrans et vainqueurs, aucunement. Dans cette situation, il y a deux épreuves, l'épreuve de l'opprimé et le dénouement, le jour de Qiyama, exceptionnel, ce qu'Allah va accorder comme récompense à l'opprimé. Et il y a l'épreuve sur l'oppresseur. Des gens qui Allah a donné le pouvoir, Allah observe comment ils agissent, ils ont agi de la pire des façons, tyrannie, meurtre, injustice, et ainsi de suite, ben leur sort là-haut sera le pire des sorts. C'est-à-dire pour comprendre le fonctionnement des choses et pour être apaisé, on a besoin de se projeter vers le delà et se dire que Allah il est le Maliki Yawmiddin. Même s'il y a des choses qui se passent qu'on n'arrive pas à comprendre, très injuste, mais en finalité, le Yawmuddin, le jour de la rétribution, le Malik, c'est Allah. Que ce soit des injustices sur le plan international, ou te concernant pour des broutilles, où tu estimes qu'il y a des choses qui ne sont pas justes, tu t'en remets à Allah complètement. Et là, tu auras le cœur apaisé. Autrement, on va rentrer dans des spirales d'affrontement, on va se fatiguer, on va tourner en rond, pourquoi? Il n'est pas juste, ce n'est pas normal, ça aurait dû... Tu t'en remets à Allah Azza wa Jal. Hada. Donc, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, un encouragement venant d'Allah pour le prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, les mufassirin disent également en deuxième, on a encore pour deux minutes et puis on s'arrête. Deuxièmement, c'est une preuve que celui qui invite vers la vérité est éprouvé. C'est la sunnah d'Allah. Quand quelqu'un invite vers le bien, il est éprouvé. Quand quelqu'un décide de se rapprocher d'Allah, il est éprouvé. Alif lam mim, ahsib an-nas wa yutraku. أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Comment auriez-vous pu penser que, c'est pas la traduction, le sens, qu'on va essayer d'avancer, on dit qu'on a la foi, on s'approche d'Allah et qu'il n'y ait pas d'épreuve. C'est impossible. Aucun cheminement spirituel, aucune suivi du droit chemin n'est possible sans que cela soit accompagné d'ibtila et de fitna, d'épreuves. C'est comme ça qu'Allah agit. Et il le dit clairement, l'énoncé, la thèse est là. Wahum la yuftanun. Et à travers l'histoire des prophètes, les meilleurs des hommes ont eu les plus grandes épreuves. Les meilleurs des hommes ont eu les pires des épreuves. Voyez-vous là une cohérence, une logique ? On dit que ben non, normalement, ceux qui sont aimés par Allah, ben Allah les protège. Ben non. Ashaddun. Et Allah le dit clairement par le biais du prophète, Ashaddun nasi bala'a. Les gens les plus éprouvés, al-anbiya, thumma al-amthal, fal-amthal, ce sont les prophètes. Qui sont les créatures les plus aimées par Allah? Ce sont les prophètes. Et qui sont les plus éprouvés? Ce sont les prophètes. L'homme le plus malade, Ayyub. L'homme le plus trahi, Yusuf alayhi salam. Il a réalisé zalik. L'homme le plus éprouvé, Ibrahim alayhi salam, dans son amour propre, pour son épouse, pour son enfant, il a réalisé zalik. Et dans un hadith, le Prophète dit que lorsqu'Allah aime une personne, Allah l'éprouve. Et les épreuves, c'est une manifestation de l'amour d'Allah pour nous. Parce que par les épreuves, les péchés sont effacés, de bonnes actions sont inscrites dans le livret de compte, et le degré, le grade, le manzila de ce croyant augmente auprès d'Allah Azza wa Jal. Nous le percevons comme des humains. Situation catastrophique, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi moi? Mais sache que c'est de cette façon qu'Allah t'honore. C'est de cette façon qu'Allah te gratifie, qu'Allah t'élève. Troisième point à retenir concernant ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Lorsqu'on est éprouvé ou lorsque des croyants sont humiliés, ça ne veut pas dire qu'Allah les a abandonnés. Aucunement. Aucunement. Autrement, quand le prophète reçoit des coups de pierre des Banu Thaqif à Ta'if, est-ce que à ce moment Allah l'a abandonné? Non, c'est une épreuve. Et Allah éprouve les gens qu'il aime. Ça c'est le troisième enseignement. Quatrième enseignement, le fait que des ennemis ou des gens qui propagent le mal, ils aient le dessus, comme c'est le cas, comme on voit à notre époque, ça ne veut pas dire qu'Allah leur a accordé la victoire et que le croyant est vaincu. Aucunement. C'est là le point, c'est le dernier point de l'épreuve. Et si cette épreuve finit par la mort du croyant, ça veut dire que son épreuve est terminée maintenant. Khalas. Khalas, c'est terminé. Il a été éprouvé jusqu'au bout, il est resté ferme jusqu'au bout. Lot a été éprouvé dans son pouvoir, dans ce qu'il leur a accordé, il est resté méchant et injuste jusqu'au bout. Et il a repris la vie des créatures d'Allah. Khalas, l'épreuve est terminée pour ce croyant. Vous l'appelez comment? Opprimé et ainsi de suite, comme vous voulez. Maintenant, son épreuve est terminée. Et là-haut, c'est que récompense sur récompense. Donc, le fait de voir des personnes insultées, humiliées, ça ne veut pas dire qu'Allah les a abandonnées. Ça ne veut pas dire non plus que ceux qui font du tort, ils ont eu le dessus et il y a des gagnants et des perdants. Aucunement. Tout ça, ce sont des situations d'épreuve. Le prophète qui se fait insulter, ça ne veut pas dire que les Quraysh, ils ont le dessus. Non. Ils sont en train de s'enfoncer. Parce que dans cette épreuve, ils sont injustes. Et le prophète est élevé, d'où les versets qui montrent qu'il a un grade auprès d'Allah, une récompense qui est sans limite. Et dernier point, c'est un dernier tafsir assez intéressant, c'est une preuve également que le prophète alayhi salatu wassalam est maître de ce qu'il dit, de ses pensées, et qu'il aura toute son intégrité psychologique, sa stabilité jusqu'à sa mort. Et que jamais le prophète sallam aura une maladie ou autre, où il va confondre les paroles ou autre chose. Ce qui est une garantie également pour la prophétie. Que tout ce qu'Allah lui révèle, le prophète n'oublie jamais ce qu'Allah lui a révélé, et le prophète ne mélange jamais les versets. Maintenant que le prophète se trompe dans la prière, ça c'est quelque chose qui est normal. Ou que le prophète, après avoir propagé, d'accord, il se trompe dans un verset, ça c'est normal. Mais avant la propagation, il est impossible, le prophète est parfait. Parce que ce Coran vient d'Allah, il est protégé par Allah. Et ce verset montre que le prophète a son intégrité et sa stabilité psychologique jusqu'à sa mort. Jamais personne ne pourra douter de cela. Hada. On va s'arrêter à la prochaine fois, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, on va voir ce magnifique verset. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, avec le témoignage de certaines personnes qui expliquent comment était le noble comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui lui vaut cette attestation de la part d'Allah qu'il a le meilleur des comportements de cette humanité. Qu'Allah nous accepte, nous accorde les bénéfices de cette assemblée et fait rentrer dans nos cœurs les réalités de ces versets et qu'on puisse trouver le réconfort et mettre en application. Allahumma amin. Et qu'on n'oublie pas de lire la sourate Tabarakalladhi biyadihi al-mulk avant de tomber. Subhana rabbika. Rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.